Merci beaucoup, John Lydon. Il est 18h30 en temps universel. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à l'écoute en ce lundi 13 mai 2024. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter un nouveau numéro du Monde aujourd'hui. Une émission de VO Afrique à la une de l'actualité ce soir. Présidentielle au Tchad, l'Union européenne s'inquiète de violence. Au Mali, un collectif rejette plusieurs années supplémentaires de régime militaire. En Libye, arrestation de responsables à douaniers et démantèlement d'un trafic d'or. Au procès de Donald Trump, son ex-avocat Michael Cohen, devenu son ennemi juré, reconnaît avoir menti pour l'ancien président des États-Unis. L'Union européenne s'inquiète de violences post-électorales au Tchad. Sans en préciser la nature, elle déplore la mise à l'écart de nombreux observateurs de la présidentielle, 4 jours après l'annonce de la victoire du chef de la junte, victoire contestée par l'opposition. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé il y a 3 ans par l'armée chef de l'État à la mort de son père président depuis plus de 30 ans, a recueilli 61,03% des suffrages dès le premier tour au scrutin du 6 mai. Succès Masra, le premier ministre nommé en janvier par Déby, crédité de 18,53% des voix officiellement, a affirmé lui qu'il avait au contraire remporté l'élection et demandé au Conseil constitutionnel d'annuler un scrutin au résultat falsifié selon son parti. L'UE prend note de la publication des résultats provisoires et ne peut que déplorer la non-accréditation d'un nombre important d'observateurs de la société civile à la veille du scrutin, lit-on dans un communiqué du département des affaires étrangères de l'UE aujourd'hui. Des médias tchadiens ont évoqué des morts et de nombreux blessés par des tirs de joie des militaires à l'annonce des résultats jeudi soir, mais le gouvernement a refusé d'en livrer le nombre et interdit aux hôpitaux de le faire, invoquant le respect du secret médical. Au Mali, un collectif de partis et d'organisations de la société civile rejette la perspective d'une prolongation de la transition préconisée à l'issue de consultations tenues par la junte, mais qualifiée de mascarade. Nani Talani.
Les parties prenantes à ce collectif dénoncent ce qu'elles qualifient de mascarade de dialogue intermalien initié par les autorités en place et qui recommande plusieurs années supplémentaires de régime militaire et une candidature du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, à une future présidentielle. Les détracteurs rejettent les recommandations du dialogue, accusant les militaires de vouloir s'éterniser au pouvoir en prenant en otage le Mali et les Maliens, indique un communiqué sur les réseaux sociaux ce lundi. Les autorités ignorent les difficultés quotidiennes des Maliens confrontés à l'insécurité, la cherté de la vie, le chômage ou les coupures d'électricité et ont démontré leur incapacité notoire à apporter un moindre début de solution, accusent les critiques. Selon eux, les recommandations de vendredi ne reflètent aucunement la volonté du peuple et n'ont accouché d'aucune initiative malienne de paix. Le dialogue intermalien a été boycotté par une grande partie de ce qui reste de l'opposition après la dissolution depuis 2020 d'un certain nombre d'organisations critiques par les autorités qui ont aussi suspendu en avril les activités des partis.
En Guinée, les avocats des victimes au procès du massacre commis en 2009 demandent que les faits retenus contre les accusés soient requalifiés en crimes contre l'humanité. Yacouba Ouidraogo.
Pour nous, partis civils, ces faits-là, ces crimes horribles, regrettables, condamnables, inacceptables, ce sont des crimes contre l'humanité, a déclaré Maître Amidou Bari, l'un des conseils des partis civils. Ouvert le 28 septembre 2022, le procès de l'ancien président Moussa Dadis Camara et de 10 autres anciens responsables militaires et gouvernementaux est entré ce lundi dans sa phase finale, celle des plaidoiries des nombreuses parties civiles, avant le réquisitoire du procureur et les plaidoiries de la défense. Maître Amidou Bari a rappelé que la demande des victimes de requalification en crime contre l'humanité avait été rejetée par les juges d'instruction en 2017, par la Cour d'appel en 2018 et la Cour de cassation en 2019. Le procureur a lui aussi demandé en mars la requalification des faits en crime contre l'humanité. La Cour, qui a décidé qu'elle statuerait au moment du jugement, a demandé aux avocats de faire en sorte que les accusés soient fixés sur leur sort avant les vacances judiciaires en août.
Au Kenya, le gouvernement indique que la plupart des écoles ont pu rouvrir aujourd'hui avec 2 semaines de retard en raison des inondations qui ont frappé le pays. John Linden.
Plus de 90% des écoles ont été rouvertes et certains élèves dont les écoles ont été sérieusement touchées ont été transférés dans des établissements voisins, a déclaré la porte-parole adjointe du gouvernement. Environ 2000 établissements ont été touchés à divers degrés par les inondations, a-t-elle indiqué, précisant que les enseignants trouvaient des mesures alternatives dans le cas des écoles qui n'ont pu ouvrir. Le Kenya connaît depuis plusieurs semaines des pluies intenses qui ont fait au moins 277 morts et endommagé de nombreuses habitations et infrastructures, dont certains des plus de 45 500 établissements d'enseignement primaire et secondaire, public et privé confondus. Des écoles accueillent également des déplacés ayant fui la montée des eaux. La rentrée scolaire, initialement prévue le 29 avril après 3 semaines de vacances, avait été reportée à 2 reprises face aux dégâts causés dans certaines écoles et sur de nombreuses routes, empêchant les élèves de se rendre en classe en toute sécurité.
Dans l'actualité également, en Libye, plusieurs responsables à des douanes de la ville de Misrata, dont le directeur général, ont été arrêtés pour avoir tenté de faire sortir illégalement près de 26 tonnes d'or du pays, d'après le bureau du procureur général. La valeur des lingots est estimée à plus d'1,9 milliard de dollars. Selon un rapport de l'ONG américaine d'investigation The Sentry, la Libye, pays gouverné par 2 exécutifs rivaux, est utilisée comme région de transit de la contrebande d'or vers des pays tels que les Émirats arabes unis et la Turquie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump, a affirmé ce lundi avoir menti et intimidé pour le compte de l'ancien président des États-Unis dans un face-à-face tendu au procès pour paiement dissimulé à Stormy Daniels, une vedette de films pornographiques. Après le récit livré la semaine dernière par cette actrice sur une relation sexuelle en 2006 avec Donald Trump, qu'il nie, le témoignage de Michael Cohen, qui a débuté ce matin dans un tribunal de New York, est décrit comme l'autre moment crucial de ce procès inédit aux lourds enjeux politiques pour le candidat des Républicains à la présidentielle de novembre. Appelé à la barre, Michael Cohen, 57 ans, l'air nerveux, est interrogé par une procureure pour savoir s'il a déjà menti et intimidé des gens. Le témoin a répondu par 2 fois clairement oui. C'est ce qui devait être fait pour accomplir les tâches, a dit sous serment l'ancien avocat. De violents combats opposent ce lundi l'armée israélienne au Hamas dans la bande de Gaza, notamment à Rafah, malgré les mises en garde des États-Unis contre une offensive majeure dans la ville. Alexandrine Rolognon.
Des témoins ont fait état de tirs d'hélicoptères et de bombardements dans l'est de Rafah. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou menace de lancer une offensive terrestre d'ampleur pour s'attaquer au dernier bastion du Hamas qui s'y abrite, selon lui. Ces nouvelles violences coïncident ce lundi avec la commémoration du Memorial Day en Israël. Le pays rend hommage à ses soldats tombés pendant les guerres d'Israël et les victimes israéliennes d'attaques hostiles. La semaine dernière, les forces israéliennes ont ordonné à la population d'évacuer l'est de Rafah et 300 000 Palestiniens ont suivi ces appels, selon l'armée. Ces appels ont été renouvelés ce lundi selon des témoins, mais les États-Unis mettent en garde. Une vaste opération dans Rafah risquerait de créer le chaos, l'anarchie et d'énormes dégâts pour la population civile, sans résoudre le problème du Hamas, selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Un nouveau bilan du Hamas fait état de plus de 35 000 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.
2 Ukrainiens et 1 Russe risquent la peine de mort en Indonésie après un raid des autorités dans un présumé laboratoire de fabrication de drogue sur l'île touristique de Bali. 4 suspects, dont un Indonésien arrêté au début du mois de mai dans une villa de l'île, sont accusés d'avoir cultivé du cannabis et fabriqué du méphédrone, une drogue de synthèse, dans un laboratoire. La loi indonésienne en matière de drogue est l'une des plus sévères au monde. Au Kazakhstan, un tribunal a condamné à 24 ans d'emprisonnement aujourd'hui, un ancien ministre de l'économie accusé d'avoir torturé et tué sa femme. Une affaire qui a choqué ce pays d'Asie centrale et médiatisé le sujet tabou des violences domestiques. Saltana Nukenova a été tuée à 31 ans, mi-novembre, par Kwandzik Bishambayev dans un restaurant d'Astana, la capitale. Voilà pour le journal. Sans plus tarder, la Minute Écho avec John Lyndon.
En Centrafrique, des appels au boycott des services de l'opérateur français Orange se multiplient dans le pays. Selon le site ecomatin.net, sommet de sursoir au prélèvement de la nouvelle taxe sur les transactions mobile money depuis un mois, la société de téléphonie mobile refuse de s'exécuter. La plateforme des acteurs pour la protection des droits numériques en Centrafrique est ainsi montée au créneau, se disant avoir constaté une augmentation de plus de 100% des frais des transactions sur l'ensemble du territoire. Au Nigeria, l'État d'Enugu signe un accord de 42 millions de dollars pour relancer sa production d'huile de palme. Selon l'agence Ecofin, qui cite des médias locaux, le gouverneur de l'État d'Enugu a signé le 10 mai dernier un accord avec l'entreprise Pragmatic Palm Limited. Ce partenariat vise à relancer l'United Palm Product Limited, une entreprise de transformation d'huile de palme administrée par le gouvernement de l'État. Le groupe Emirates, basé à Dubaï et propriétaire de la compagnie aérienne la plus importante du Moyen-Orient, annonce un bénéfice net annuel record d'un peu plus de 5 milliards de dollars sur les exercices 2023-2024, en hausse de 71% par rapport à l'année précédente. Un résultat dont s'est félicité son PDG en soulignant la forte demande de transport aérien et de services liés aux voyages dans le monde.
Et maintenant, la page sportive avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
On connaît désormais tous les qualifiés pour les playoffs de la Basketball Africa League.
Oui, les derniers tickets ont été arrachés hier à la Dakar Arena. Le club hôte, l'AS Douane, a validé son ticket suite à sa victoire 79-54 face au Rwandais d'APR devant les présidents sénégalais Diomaye Faye et Rwandais Paul Kagame. Les Gabelous terminent ainsi deuxième derrière les Nigériens de Rivers Hoopers, battus lors de leur dernier match par les Tunisiens de l'US Monasti, qui prennent du coup l'une des deux places de meilleur troisième, qualificative aussi pour les playoffs. Et justement, les huit équipes qualifiées pour les playoffs sont le tenant du titre Al-Ahly d'Égypte, Al-Ahly Benghazi de la Libye, Fus du Rabat du Maroc, Petro de Luanda d'Angola, Rivers Hoopers du Nigeria, l'AS Douane du Sénégal et les Tunisiens de l'US Monasti, ainsi que les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Les finales se joueront à Kigali du 24 mai au 1er juin prochain.
Ici en NBA, les Nuggets et les Pacers reviennent à égalité face aux Wolves et aux Knicks.
Les Denver Nuggets ont battu les Minnesota Timberwolves 115-107 en demi-finale de leur conférence disputée au meilleur des sept matchs. Le MVP de la saison régulière Nikola Jokic et son équipier Aaron Gordon ont porté les Nuggets champions en titre. Jokic a marqué 35 points, pris 7 rebonds et offert 7 passes décisives. Gordon a ajouté 27 points, 7 rebonds et 6 passes décisives. Anthony Edwards a été le meilleur scoreur de la rencontre avec 44 points. Mais cela n'a pas suffi face à des Nuggets plus précis. Denver et Minnesota sont à égalité 2-2. À l'Est, dans une rencontre à sens unique, les Pacers d'Indiana ont réussi 56,8% de leurs tirs avec 14 tirs à 3 points et une domination dans la peinture pour dominer les New York Knicks 121-89. Les deux formations reviennent aussi à égalité 2-2.
Football, la reconnaissance sportive de Berkane remporte la finale aller de la Coupe de la Confédération.
Le club marocain qui a démarré fort la rencontre en menant 2-0 s'est finalement imposé à domicile sur le score de 2-1 devant le Zamalek du Caire. Le capitaine de la RS Berkane, buteur sur pénalty, salue cette victoire à la manche aller.
On doit être fier de nous, pas permis à tout le monde de gagner une finale. Et on l'a fait avec la manière. On avait face à nous une très bonne équipe des Zamalek. Le Maroc a gagné à une mi-temps de finale à domicile. Donc, comme je le dis toujours, c'est le peuple marocain qui gagne. C'est magnifique, c'est beau. Vous l'avez vu ce soir et c'était incroyable. C'est ça le foot marocain et voilà, c'est ça qui donne un boom au cœur. On leur dit bravo, on leur dit merci. Et voilà, c'est à nous de maintenant de leur donner cette fierté en voyageant au Caire comme des soldats. Et voilà, pour aller défendre le drapeau de Orange et le drapeau marocain.
Issoufou Dayo, capitaine burkinabé de la RS Berkane. Le match retour est prévu dimanche, mais déjà la veille, on va assister à la finale aller de la Ligue des Champions entre le tenant du titre Al-Ahly du Caire et l'Espérance de Tunis.
Merci bien, Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en ce lundi 13 mai 2024. Jacques Aristide est toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Les consultations nationales, censées proposer des solutions à la crise sécuritaire et politique au Mali, ont pris fin vendredi dernier. Les recommandations incluent la prolongation de 2 à 5 ans du régime des militaires qui ont pris le pouvoir par un putsch en 2020 et la candidature du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, à la prochaine élection présidentielle. Un collectif de partis et d'organisations de la société civile rejette ces recommandations et décrit le dialogue intermalien comme une mascarade. Pour une analyse, Nani Talani a joint à Bamako Boubou Kabé, président du conseil régional de la société civile de Bougouni.
Pendant les phases communales, les chefs de village et les chefs de fraction, alors m'ont mandaté personnellement pour que je puisse soutenir cette recommandation. Car pour eux, le Mali n'a été indépendant qu'avec, en tout cas, la rupture avec les accords coloniaux. Et là, le Mali n'a aspiré à la paix depuis près d'une décennie, sinon plus qu'une décennie, qu'avec.
Et ces accords coloniaux, c'est le colonel Assimi Goïta qui les a annulés.
Bien sûr, c'est le colonel Assimi Goïta qui les a annulés. Ça, le départ de l'amélissement de chez nous, le départ de la force Barkhane de chez nous, etc., etc. Donc, tout ce qu'il a eu à poser comme acte dans ce sens-là, et là, cela a donné un souffle nouveau aux Maliens. Et le Mali a aspiré, nous, ce qui aujourd'hui appartient au Mali. Et là, tellement d'engouement pour les Maliens de soutenir les autorités de la transition, parce que ça, le Mali allait être, comment dire, divisé. Parce que déjà à Kidal, il y a des gens qui étaient là, qui faisaient de l'extraction des minerais, et il en exploitait pour en faire profit. Et le Malien ne tirait aucun profit dans ça. Et plein d'autres choses. Mais quand même, pour eux, l'indépendance réelle du Mali, c'est avec le pouvoir de la transition. Et la paix, c'est avec ce pouvoir de la transition. Voilà pourquoi ils ont demandé à ce que ça soit une recommandation du dialogue intermalien. Si nous voulons vraiment le développement, ce serait avec Assimi. Et cela n'est possible que lorsque on va lui demander non seulement de prolonger un peu la transition pour mieux préparer les élections et d'être candidat. C'est comme ça que c'est venu.
Un groupe qui n'est pas d'accord avec les conclusions, qui les rejette même. Donc ça montre que les conclusions du rapport ne font pas vraiment l'unanimité au Mali.
C'est ça, l'humanité même. C'est partout, c'est comme ça. On ne fait jamais l'unanimité. Et là, il y en a qui ne sont pas d'accord et qui ne seront jamais d'accord. Mais peut-être qu'ils vont prendre le train en marche. Il y a certains qui disent que le Mali n'a jamais été indépendant qu'avec la transition actuelle. Il y en a qui pensent le contraire, que depuis que la transition est là, alors que tout a chamboulé, rien ne va et il faut qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Ceux-là qui ne se reconnaissent pas dedans pour le moment ou bien qui n'ont pas accepté. Alors on souhaite, ce sont nos frères, ce sont des Maliens, que les dialogues continuent comme le président du comité de pilotage a eu à le dire. Les portes ne sont pas du tout fermées. En tout cas, les Maliens peuvent venir faire des propositions, dire ce qu'ils pensent pour qu'on puisse vraiment avoir la paix, pour qu'on puisse se réconcilier et définitivement.
Et que faire de façon pratique pour fédérer toutes les forces autour des conclusions de ce rapport?
Il s'agit d'abord de faire une dissémination de ces recommandations et vulgariser pour que le grand nombre puisse vraiment comprendre et s'en approprier. De deux, il s'agit de sensibiliser nos frères qui n'ont pas voulu être avec nous dans ce forum-là. Il faut commencer à mettre, comme je l'ai dit, à court terme, ce qui est possible de faire tout de suite pour que les gens voient la réalité des choses.
Boubou Kabé, président du conseil régional de la société civile de Bougouni au Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Près de 3 millions de Burkinabés seront confrontés à une insécurité alimentaire nécessitant une aide d'urgence. Washington va allouer 55 millions de dollars pour répondre à cette crise humanitaire, portant son assistance totale à environ 158 millions de dollars depuis 2023. Pour en parler, Eric Manirakidza a joint à Ouagadougou Madi Wedraogo de l'USAID, l'agence des États-Unis pour le développement international.
Donc cette annonce reflète notre engagement continu envers les populations du Burkina Faso, les plus durement touchées par le conflit en cours. Notre mission est de sauver des vies et en fournissant la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé d'urgence, et les services d'assainissement et d'hygiène, ainsi que des services nutritionnels essentiels aux populations les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre au Burkina Faso. La majorité de l'aide annoncée a été fournie au Programme alimentaire mondial, le PAM. Et notre soutien à l'opération de transport aérien par hélicoptère garantit l'approvisionnement en nourriture pour les plus vulnérables et en produits nutritionnels pour les enfants souffrant de malnutrition dans les zones les plus difficiles d'accès, comme Djibo, Gairi, Mansila, pour ne citer que celles-ci. Également, USAID soutient depuis longtemps l'achat de Plampinat et un traitement pour les enfants souffrant de malnutrition. Et donc, nous passons par l'UNICEF pour approvisionner auprès d'Ino Faso. Ino Faso est une entreprise burkinabé.
Depuis 2023, c'est un montant qui totalise près de 158 millions de dollars. Voudriez-vous nous parler déjà de l'impact?
Il faut dire que notre aide a touché plus d'un demi-million de personnes au cours des deux dernières années au Burkina. Et l'année dernière, à travers nos subventions et à des partenaires, notamment des ONG locales, des ONG internationales et les Nations Unies, et nous avons donné de la nourriture qui non seulement a assuré la subsistance, mais a garanti également la dignité des populations à travers le choix même des aliments acceptables au niveau local. Nous avons également fourni des produits nutritionnels comme des céréales données aux femmes enceintes pour garantir une grossesse en bonne santé et aussi le traitement des enfants malnutris, ce qui a contribué à sauver des vies et a aussi garanti aux enfants l'atteinte de leur plein potentiel. Et en plus de cela, nous avons fourni des soins de santé à travers des approches telles que les postes de santé avancés et les cliniques mobiles dans les zones où les centres de santé sont fermés et aussi dans les zones d'accueil des personnes déplacées. Et en ce qui concerne la fourniture d'eau, nous avons fait du water tracking, qui est la fourniture d'eau par le biais de camions citernes. Et aussi, nous avons réhabilité des forages. Et en termes d'abris, nous avons fourni des abris d'urgence durables et semi-durables. Et nous avons combiné cela à des articles ménagers pour les personnes récemment déplacées.
Madi Wedraogo, spécialiste de gestion de projets programmes à l'USAID, l'intégralité de cet entretien à écouter sur voafrique.com.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les questions de politique étrangère motivent rarement les électeurs américains et pour la plupart d'entre eux, la politique africaine n'est pas une préoccupation majeure lorsqu'ils choisissent leur candidat à la présidence. Mais des analystes sont d'avis que quel que soit le candidat qui l'emporte en novembre prochain, il devra relever un défi de taille en tentant de restaurer l'influence et le prestige de l'Amérique sur le continent africain qui compte plus d'1,2 milliard habitants. Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison Blanche, nous en dit plus. Le récit est de Gabi Dorsil.
L'Afrique n'est pas monolithique, elle recèle une richesse de ressources et de traditions et toute la gamme de luttes auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes États-nations. Bien que le continent à la croissance la plus rapide du monde joue un rôle relativement modeste sur cette scène, le prochain locataire de la Maison Blanche, que ce soit l'ancien président républicain Donald Trump ou le président démocrate Joe Biden, devra faire des choix politiques qui répondent aux conditions économiques et de sécurité en évolution rapide en Afrique. La position passée de Trump sur l'Afrique, dit-on, peut être résumée en un mot injurieux qu'il aurait utilisé pour décrire les pays africains et la nation caribéenne d'Haïti. Michael Walsh est analyste de l'Afrique au Foreign Policy Research Institute.
Je veux dire qu'il a utilisé de manière célèbre ce juron pour désigner un certain nombre de pays d'Afrique. Ensuite, il a poursuivi une stratégie et une politique vraiment axée sur l'examen des questions brûlantes en Afrique, les questions de sécurité, et il a essayé de les éradiquer. Mais il n'y a pas vraiment de stratégie globale.
Biden a mis l'accent sur un partenariat axé sur les valeurs sur le continent, mais cela a été largement éclipsé par sa lutte contre l'influence de la Russie en Afrique et le soutien des États-Unis à Israël. Cameron Hudson est chercheur principal au programme Afrique du Centre d'études stratégiques et internationales.
Je pense que les Africains regardent bien au-delà de nos politiques en Afrique, qu'ils s'intéressent à la guerre au Moyen-Orient, à la guerre à Gaza et au soutien des États-Unis à Israël, par exemple, ou aux demandes faites aux pays africains de ne pas traiter avec la Russie ou de ne pas nouer de relations avec elle. Je pense donc qu'ils voient un certain degré d'hypocrisie dans les politiques de l'administration Biden au niveau mondial. Et cela ne lui fait pas beaucoup de nouveaux amis en Afrique.
C'est un point que l'Afrique du Sud a mis en évidence en accusant Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide dans le cadre d'une plainte historique portée devant la plus haute juridiction de l'ONU. Interrogée par la Voix de l'Amérique en janvier, l'administration Biden a rejeté l'affaire comme étant sans fondement. Les analystes estiment que cette atteinte à la crédibilité de l'Amérique invite les adversaires à en profiter. Mirette Mabrouk étudie l'Égypte et la Corne de l'Afrique au Middle East Institute.
Vous avez besoin de cette crédibilité, car à un moment donné, quelqu'un dira, ou une autre superpuissance interviendra et dira, c'est vrai, je ne fais pas d'exception. Je ne me soucie sincèrement pas des droits humains dans quelque partie du monde que ce soit. Et donc, au moins, cela me rend meilleur.
Selon Cameron Hudson, le prochain président américain sera confronté à un continent de plus en plus enhardi.
Je pense que tout nouveau président américain sera confronté au déclin de l'influence de Washington sur le continent africain.
Le président Biden a envoyé la vice-présidente Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Cependant, ni lui ni Trump ne se sont rendus en Afrique en tant que président.
Alors que les États-Unis ont récemment décidé de suspendre certaines livraisons d'armes à Israël, la guerre à Gaza fait désormais partie de la rhétorique de la campagne présidentielle américaine. Donald Trump s'est joint à d'autres républicains pour critiquer son rival politique, le président Joe Biden, en raison de la position de ce dernier sur la question. Véronica Balderas-Iglesias nous en parle dans son reportage repris par Jenny Niwa.
C'était un dimanche sombre en Israël à l'occasion de la journée de commémoration des soldats tombés au combat et des victimes de la terreur. De l'autre côté de la frontière, des Palestiniens déplacés ont obéi aux ordres d'évacuation avant l'extension prévue par Israël de ses opérations militaires contre le Hamas à Rafah. Ce qui se passe à l'autre bout du monde a également une forte résonance sur la campagne électorale aux États-Unis. Donald Trump a évoqué la guerre en Israël et le Hamas devant une foule de près de 100 000 partisans samedi à Wildwood dans le New Jersey.
Il n'aurait pas eu de guerre à Gaza si j'avais été à la Maison-Blanche. Quand j'étais président, nous avions la paix au Moyen-Orient comme jamais auparavant.
Trump et d'autres républicains ont fortement décrié la récente décision de l'administration Biden de suspendre certaines livraisons de bombes à Israël dans le contexte des événements qui se déroulent à Rafah. Même si certaines livraisons d'armes ont été interrompues, un récent rapport du Département d'État au Congrès n'a pas conclu qu'Israël avait violé le droit américain et international en utilisant l'assistance militaire dans sa guerre contre le Hamas. Sur la chaîne NBC, le secrétaire d'État Anthony Blinken a répondu à la question de savoir si les États-Unis évitaient de demander des comptes à leurs alliés.
Non, nous n'avons pas de poids, de mesure. Nous traitons Israël comme l'un de nos plus proches alliés et partenaires, comme nous le ferions pour n'importe quel autre pays. Et lorsque nous pourrons parvenir à des conclusions définitives, nous le ferons, mais il est très difficile de le faire au milieu d'une guerre.
Le sénateur progressiste indépendant Bernie Sanders, qui s'aligne sur l'opposition démocrate à la conduite de la guerre par Israël, a déclaré à NBC que, selon lui, Israël ne devrait pas recevoir un centime de plus d'aide militaire américaine.
35 000 Palestiniens morts et 77 000 blessés, dont les deux tiers sont des femmes et des enfants. Ce n'est pas ainsi que l'on mène une guerre dans une société civilisée, dans la mesure où la guerre est civilisée.
On s'attend à ce que Joe Biden, qui a jusqu'à présent réussi à trouver un équilibre entre sa candidature à la réélection et ses fonctions officielles en tant que président, soit confronté à de nouveaux défis cette semaine. Les républicains du Congrès s'opposent à la suspension de certains transferts d'armes à Israël. Donald Trump, quant à lui, est retourné au tribunal à New York lundi pour faire face à son ancien avocat Michael Cohen, alors que ce dernier témoigne dans le procès de l'affaire des pots de vin de Trump.
Et voilà, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 13 mai 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.